Chapitre 185 La Fontaine négociateur. Fouquet serra la main de La Fontaine avec une charmante effusion. « Mon cher poète, lui dit-il, faites-nous 100 autres comptes, non seulement pour les 80 pistoles que chacun d'eux rapportera, mais encore pour enrichir notre langue de 100 chefs-d'œuvre. » « Oh, oh !» dit La Fontaine en se rengorgeant, « il ne faut pas croire que j'ai seulement apporté cette idée et ces 80 pistoles à monsieur le surintendant. » « Oh, mais » s'écria-t-on de toutes parts, « monsieur de La Fontaine est en fond aujourd'hui. »« Béni soit l'idée si elle m'apporte un ou deux millions, » dit gaiement Fouquet. « Précisément, » répliqua La Fontaine. « Vite, vite !» cria l'assemblée. « Prenez garde, » dit Pélisson à l'oreille de La Fontaine. « Vous avez eu grand succès jusqu'à présent, n'allez pas lancer la flèche au-delà du but. »« Nenni, monsieur Pélisson, et vous qui êtes un homme de goût, vous m'approuverez tout le premier. »« Il s'agit de millions, » dit Gourville. « J'ai là 1500 000 livres, monsieur Gourville. » Et il frappa sa poitrine. « Au diable le Gascon de Château-Thierry !» cria Loret. « Ce n'est pas la poche qu'il fallait toucher, » dit Fouquet, « c'est la cervelle. »« Tenez, » ajouta La Fontaine, « monsieur le surintendant, vous n'êtes pas un procureur général, vous êtes un poète. »« C'est vrai !» s'écrièrent Loret, Conrart et tout ce qu'il y avait là de gens de lettres. « Vous êtes, dis-je, un poète et un peintre, un statuaire, ami des arts et des sciences. Mais, avouez-le vous-même, vous n'êtes pas un homme de robe. »« Je l'avoue, » répliqua en souriant M. Fouquet. « On vous mettrait de l'académie que vous refuseriez, n'est-ce pas ?»« Je crois que oui, n'en déplaise aux académiciens. »« Eh bien, pourquoi, ne voulant pas faire partie de l'académie, vous laissez-vous aller à faire partie du Parlement ?»« Oh, oh !» dit Pélisson, « nous parlons politique. »« Je demande, » poursuivit La Fontaine, « si la robe sied ou ne sied pas à M. Fouquet. » « Ce n'est pas de la robe qu'il s'agit, » riposta Pélisson, contrarié des rires de l'assemblée. « Au contraire, c'est de la robe, » dit Loret. « Ôtez la robe au procureur général, » dit Conrart. « Nous avons M. Fouquet, ce dont nous ne nous plaignons pas. Mais comme il n'est pas de procureur général sans robe, nous déclarons, d'après M. de La Fontaine, que certainement la robe est un épouvantail. » « Fugiunt risus leporesque, » dit Loret. « Les rises et les grâces, » fit un savant. « Moi, » poursuivit Pélisson gravement, « ce n'est pas comme cela que je traduis leporesse. »« Comment le traduisez-vous ? » demanda La Fontaine. « Je le traduis ainsi. Les lièvres se sauvent en voyant M. Fouquet. » Éclat de rire dont le surintendant prit sa part. « Pourquoi les lièvres ?» objecta Conrart piqué. « Parce que le lièvre sera celui qui ne se réjouira point de voir M. Fouquet dans les attributs de sa force parlementaire. »« Oh, oh !» murmurèrent les poètes. « Quo non ascendam ?» dit Conrart. « Me paraît impossible avec une robe de procureur. »« Et à moi sans cette robe ?» dit l'obstiné Pélisson. « Qu'en pensez-vous, Gourville ?» « Je pense que la robe est bonne, » répliqua celui-ci, « mais je pense également qu'un 1,5 million vaudrait mieux que la robe. »« Et je suis de l'avis de Gourville, » s'écria Fouquet, en coupant court à la discussion par son opinion, qui devait nécessairement dominer toutes les autres. « 1,5 million, » grommela Pélisson. « Pardieu, je sais une fable indienne. »« Contez-la-moi, » dit La Fontaine, « je dois la savoir aussi. » La tortue avait une carapace, dit Pélisson. Elle se réfugiait là-dedans quand ses ennemis la menaçaient. Un jour, quelqu'un lui dit, « Vous avez bien chaud l'été dans cette maison-là, et vous êtes bien empêché de montrer vos grâces. Voilà la couleuvre qui vous donnera 1,5 million de votre écaille. » « Bon, » fit le surintendant en riant. « Après, » fit La Fontaine, intéressée par l'apologue, bien plus que par la moralité. La tortue vendit sa carapace et resta nue. Un vautour la vit, il avait faim, il lui brisa les reins d'un coup de bec et la dévora.
Ô mutos d'Eloï, dit Conrart,
que monsieur Fouquet fera bien de garder sa robe. La Fontaine prit la moralité au sérieux.
Vous oubliez Échille, dit-il à son adversaire.
Qu'est-ce à dire?
Échille le chauve.
Après, Échille dont un vautour, votre vautour probablement, grand amateur de tortues, prit d'en haut le crâne pour une pierre et lança sur ce crâne une tortue toute blottie dans sa carapace.
Eh, mon Dieu, La Fontaine a raison, reprit Fouquet devenu pensif.
Tout vautour, quand il a faim de tortue, sait bien leur briser gratis l'écaille.
Trop heureuses les tortues dont une couleuvre paie l'enveloppe 1,5 million.
Qu'on m'apporte une couleuvre généreuse, comme celle de votre fable, Pélisson, et je lui donne ma carapace.
Rara avis in terris, s'écria Conrart.
Et semblable à un cygne noir, n'est-ce pas? Ajouta La Fontaine.
Eh bien oui, précisément, un oiseau tout noir et très rare, je l'ai trouvé.
Vous avez trouvé un acquéreur pour ma charge de procureur? S'écria Fouquet.
Oui, monsieur.
Mais monsieur le surintendant n'a jamais dit qu'il dût vendre, reprit Pélisson.
Pardonnez-moi, vous-même vous en avez parlé, dit Conrart.
J'en suis témoin, fit Gourville.
Il tient au beau discours qu'il me fait, dit en riant Fouquet. Cet acquéreur, voyons, La Fontaine.
Un oiseau tout noir, un conseiller au Parlement, un brave homme.
Qui s'appelle?
Vanel.
Vanel, s'écria Fouquet. Vanel, le mari de...
Précisément, son mari, oui, monsieur.
Ce cher homme, dit Fouquet avec intérêt. Et il veut être procureur général?
Il veut être tout ce que vous êtes, monsieur, dit Gourville, et faire absolument ce que vous avez fait.
Oh, mais c'est bien réjouissant! Comptez-nous donc cela, La Fontaine.
C'est tout simple, je le vois de temps en temps. Tantôt je le rencontre. Il flânait sur la place de la Bastille, précisément vers l'instant où j'allais prendre le petit carrosse de Saint-Mandé.
Il devait guetter sa femme, bien sûr, interrompit Lauré.
Oh, mon Dieu, non, dit simplement Fouquet, il n'est pas jaloux. Il m'aborde donc, m'embrasse, me conduit au cabaret de l'Image Saint-Fiacre et m'entretient de ses chagrins.
Il a des chagrins?
Oui, sa femme lui donne de l'ambition.
Et il vous dit?
Qu'on lui a parlé d'une charge au Parlement, que le nom de monsieur Fouquet a été prononcé, que depuis ce temps madame Vanel rêve de s'appeler madame la procureuse générale et qu'elle en meurt toutes les nuits qu'elle n'en rêve pas.
Pauvre femme, dit Fouquet.
Attendez, Conrart me dit toujours que je ne sais pas faire les affaires. Vous allez voir comment je menais celle-ci.
Voyons.
Savez-vous, dis-je à Vanel, que c'est cher une charge comme celle de monsieur Fouquet?
Combien à peu près, fit-il?
Monsieur Fouquet en a refusé 1,7 million.
Ma femme, répliqua Vanel, avait mis cela aux environs de 1,4 million.
Content, lui fis-je.
Oui, elle a vendu un bien en Guyenne, elle a réalisé.
C'est un joli lot à toucher d'un coup, dit sentencieusement l'abbé Fouquet qui n'avait pas encore parlé.
Cette pauvre dame Vanel, murmura Fouquet.
Pélisson haussa les épaules.
Un démon, dit-il tout bas à l'oreille de Fouquet.
Précisément, il serait charmant d'employer l'argent de ce démon à réparer le mal que s'est fait pour moi un ange.
Pélisson regarda d'un air surpris Fouquet, dont les pensées se fixaient, à partir de ce moment, sur un nouveau but.
Eh bien, demanda La Fontaine, ma négociation.
Admirable, cher poète.
Oui, dit Gourville, mais telle se vante d'avoir envie d'un cheval qui n'a pas seulement de quoi payer la bride.
Le Vanel se dédirait si on le prenait au mot, continua l'abbé Fouquet.
Je ne crois pas, dit La Fontaine.
Qu'en savez-vous?
C'est que vous ignorez le dénouement de mon histoire.
Ah, s'il y a un dénouement, dit Gourville, pourquoi flâner en route? Semper ad adventum, n'est-ce pas cela ? Dit Fouquet d'un ton de grand seigneur qui se fourvoie dans les barbarismes. Les latinistes battirent des mains. Mon dénouement, s'écria La Fontaine, c'est que Vanel se tenace oiseau, sachant que je venais à Saint-Mandé, m'a supplié de l'emmener. Oh, oh ! Et de le présenter, si c'était possible, à Monseigneur. En sorte qu'il est là, sur la pelouse du Bel Air. Comme un scarabée. Vous dites cela, Gourville, à cause des antennes, mauvais plaisant. Eh bien, monsieur Fouquet ? Eh bien, il ne convient pas que le mari de madame Vanel s'enrhume hors de chez moi. Envoyez-le quérir, La Fontaine, puisque vous savez où il est. J'y cours moi-même. Je vous y accompagne, dit l'abbé Fouquet, je porterai les sacs. Pas de mauvaise plaisanterie, dit sévèrement Fouquet. Que l'affaire soit sérieuse, si affaire il y a. Tout d'abord, soyons hospitaliers. Excusez-moi bien, La Fontaine, auprès de ce galant homme, et dites-lui que je suis désespéré de l'avoir fait attendre, mais que j'ignorais qu'il fût là. La Fontaine était déjà partie. Par bonheur, Gourville l'accompagnait, car tout entier à ses chiffres, le poète se trompait de route et courait vers Saint-Maur. Un quart d'heure après, M. Vanel fut introduit dans le cabinet du surintendant, ce même cabinet dont nous avons donné la description et les aboutissants au commencement de cette histoire. Fouquet, le voyant entrer, appela Pélisson et lui parla quelques minutes à l'oreille. « Retenez bien ceci, lui dit-il, que toute l'argenterie, que toute la vaisselle, que tous les joyaux soient emballés dans le carrosse. Vous prendrez les chevaux noirs. L'orfèvre vous accompagnera. Vous reculerez le souper jusqu'à l'arrivée de madame de Bellière. » « Encore faut-il que madame de Bellière soit prévenue, » dit Pélisson. « Inutile, je m'en charge. »« Très bien. Allez, mon ami. » Pélisson partit, devinant mal, mais confiant, comme sont tous les vrais amis, dans la volonté qu'il subissait. Là est la force des âmes d'élite, la défiance des faites que pour les natures inférieures. Vanel s'inclina donc devant le surintendant. Il allait commencer une harangue. Asseyez-vous, monsieur, lui dit civilement Fouquet. Il me paraît que vous voulez acquérir ma charge. Monseigneur, combien pouvez-vous m'en donner? C'est à vous, monseigneur, de fixer le chiffre. Je sais qu'on vous a fait des offres. Madame Vanel, m'a-t-on dit, l'estime 1 400 000 livres. C'est tout ce que nous avons. Pouvez-vous donner la somme tout de suite ? Je ne l'ai pas sur moi, dit naïvement Vanel, effaré de cette simplicité, de cette grandeur, lui qui s'attendait à des luttes, à des finesses, à des marches d'échiquier. Quand l'aurez-vous ? Quand il plaira à Monseigneur. Et il tremblait que Fouquet ne se jouât de lui. Si ce n'était pas la peine de retourner à Paris, je vous dirais tout de suite. Oh, Monseigneur ! Mais, interrompit le surintendant, mettons le solde et la signature à demain matin. Soit, répliqua Vanel, glacé, abasourdi. 6 heures, ajouta Fouquet. 6 heures, répéta Vanel. Adieu, monsieur Vanel, dites à madame Vanel que je lui baise les mains. Et Fouquet se leva. Alors Vanel, à qui le sang montait aux yeux et qui commençait à perdre la tête, « Monseigneur, monseigneur, dit-il sérieusement, est-ce que vous me donnez votre parole ?» Fouquet tourna la tête. « Pardieu, dit-il, et vous ?» Vanel hésita, frissonna et finit par avancer timidement sa main. Fouquet ouvrit et avança noblement la sienne. Cette main loyale s'imprégna une seconde de la moiteur d'une main hypocrite. Vanel serra les doigts de Fouquet pour se mieux convaincre. Le surintendant dégagea doucement sa main. « Adieu, » dit-il. Vanel courut à reculons vers la porte, se précipita par les vestibules et s'enfuit.